OK, on en est à notre 49e leçon sur notre série sur la théologie systématique. Aujourd'hui, nous allons voir la création de l'homme. Alors, quand on regarde dans les Écritures, l'homme a été créé le dernier. On pourrait dire qu'il est le chef-d'œuvre de la création de Dieu. Quand on regarde l'ordre de la création de Dieu, on remarque qu'il y a un ordre croissant dans la perfection et dans la complexité. Autrement dit, ça s'en vient toujours en croissant dans la perfection et dans la complexité. Vu que l'homme était créé en dernier, à ce moment-là, ça impliquait que c'était le chef-d'œuvre de la création de Dieu. L'homme est un microcosme en soi. Il a été créé le sixième jour. Adam fut créé le premier et Ève la deuxième. Adam fut créé de la poussière et Ève d'une côte d'Adam. Nous sommes tous les descendants directs d'Adam et Ève et non le produit d'une évolution. Acte 17, verset 26. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Voyez-vous comment il y aurait juste ce verset-là dans les Écritures pour nous montrer que les théories des Allemands, comme de quoi qu'il était une race supérieure. C'est faux parce qu'ici, les Écritures nous disent que tous les hommes sont sortis d'un seul sang. Donc, automatiquement, les folies, c'était des choses complètement inventées. Donc, la création de l'homme a été l'objet d'une consultation entre les trois personnes de la Trinité parce que dans Genèse 1, 26, ça dit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Le premier point qu'on va regarder, c'est l'auteur de la création. Comme c'est l'habitude de John Gill de procéder, il procède à peu près toujours de la même façon. Il dit toujours ce qui est négatif pour aller au positif ensuite. Autrement dit, il nous dit ce que c'est pas la création. Ce n'est pas la matière du Big Bang qui s'est auto-construit et auto-complexifié. Ce n'est pas non plus l'œuvre des anges et ce n'est pas non plus l'œuvre des extraterrestres. Je me souviens très bien, une fois j'étais à Sherbrooke et les Raéliens avaient posé des posters sur à peu près tous les endroits publics de Sherbrooke. Ils les invitaient à venir assister à une réunion et ils citaient Genèse pour démontrer, parce que Genèse, ça dit Elohim. Puis là, lui, il se basait sur le fait que Elohim est au pluriel. Donc, il disait que c'était les extraterrestres qui avaient créé la Terre. Alors, quelqu'un qui n'est pas trop au courant de la Bible peut se laisser séduire par ces folies-là. Alors, c'est pas l'œuvre des extraterrestres non plus. Et positivement, ben ça c'est sûr que c'est Dieu lui-même. Les Saintes Écritures nous enseignent que chacune des personnes de la Trinité ont participé à la création de l'homme. Comme j'avais déjà mentionné dans les leçons précédentes, quand on étudie la théologie, les théologiens ont toujours l'habitude de compartimenter les choses. Mais on se rend compte, quand on voit un petit peu plus en profondeur, que les compartiments, c'est correct pour nous aider à comprendre, mais que souvent, par exemple, on va attribuer la création à Dieu le Père. Mais les Écritures nous parlent que Dieu le Fils a créé, puis Dieu le Saint-Esprit a créé. Et dans d'autres choses aussi, c'est comme ça. Alors, ça peut être pratique de retenir les compartimentations des théologiens, mais il faut parfois aussi regarder ce que les Écritures enseignent. Alors, dans Genèse 1, 27, ça dit « Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » Dans Ecclésias 12, verset 1, « Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras « Je n'y prends point de plaisir. » Alors, on va regarder trois versets. Un qui nous dit que Dieu le Père a procédé à la création de l'homme, un autre qui dit que Dieu le Fils, puis un autre dit que Dieu le Saint-Esprit. Alors, dans Job 35, verset 10, « Mais nul ne dit, Où est Dieu, mon Créateur, qui inspire des chants d'allégresse pendant la nuit? Alors ici, c'est vraiment une référence à Dieu le Père. Dieu le Fils, dans Jean 1, versets 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alors, voyez-vous ici, il parle de Jésus-Christ comme étant le Créateur de l'homme. Et dans Psaume 33, verset 6, « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. » Alors ici, c'est une référence au Saint-Esprit. Alors, dans trois versets différents, on a Dieu le Père présenté comme le Créateur de l'homme, Dieu le Fils présenté comme le Créateur de l'homme, et Dieu le Saint-Esprit. Et c'est toutes les trois vraies. Le deuxième point qu'on va regarder, c'est l'homme, ses parties essentielles. Alors ça, en théologie, s'il y a un petit peu d'obstination entre les théologiens là-dessus, je vous donnerai tout à l'heure la position de John Gill, sur quoi il se base. Alors, il y a sur le corps. Alors, l'homme est composé d'un corps, on le sait tous. Alors, il mentionne dans son livre qu'il est significatif que l'homme ait la posture debout parce qu'il peut regarder vers le ciel. Quand on regarde les animaux, ils regardent tous vers la terre. L'homme ayant une posture debout, donc il peut regarder vers le ciel. C'est sûrement symbolique de quelque chose. La Bible aussi nous enseigne que notre corps a une structure merveilleuse. Dans le psaume 139, verset 14, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Toute personne qui a déjà ouvert un livre d'anatomie-physiologie, de voir jusqu'à quel point l'être humain est complexe, par exemple, juste le système nerveux, il y en a qui vont... Alors, c'est un des 12 systèmes, là, selon l'anatomie-physiologie. Juste le système nerveux, il y a des gars qui vont faire toute leur médecine puis ils vont se spécialiser en 4-5 ans juste pour devenir neurologue. C'est d'une complexité incroyable. Alors, quand le Seigneur dit qu'on est une créature merveilleuse, tous ces systèmes-là, ça... sont tous interreliés, ils fonctionnent tous ensemble, et il y a beaucoup de merveilleux là-dedans. Alors, on dit que même des gens se seraient convertis juste à étudier la structure de l'œil. Il y a plein de merveilles là-dedans. Moi, j'ai déjà étudié un petit peu l'anatomie physiologique, puis je peux dire que au moment où je l'ai étudié, j'étais chrétien, et ça m'amenait à l'adoration. Parce que tu regardes ça, tu dis, oh, c'est complexe, c'est beau, tout fonctionne d'une façon tellement intelligente que tu ne peux pas faire autrement que de voir la main créatrice de Dieu, en tout cas du moins pour un chrétien. Il y en a qui sont peut-être capables de l'étudier sans voir Dieu, ou du moins peut-être ne veulent-ils pas voir Dieu. C'est peut-être une autre affaire. La Bible nous enseigne aussi que originellement, avant la chute, il était immortel corporellement. Donc s'il n'avait pas chuté, il aurait demeuré vivant toute sa vie. Il aurait été vivant. C'est pourquoi, comme par un seul homme, dans Romains 5, 12 et Romains 5, 15, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Voyez-vous, c'est le péché qui a amené la mort. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Dans le verset 15, « Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. » Aussi, la Bible nous enseigne que le corps de l'homme est composé de deux choses, de poussière et d'eau. Dans Genèse 2, verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Dans Job 4, verset 19, les Écritures nous parlent que l'homme est composé d'argile. Alors l'argile, c'est de la terre avec de l'eau. Alors, combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile, en parlant des hommes, qui tirent leur origine de la poussière et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau. Ésaïe 64, verset 8. « Cependant, ô Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. » Alors, enfin, en fin de compte, quand ceux qui étudient l'anatomie physiologie, ils savent qu'on est composé d'au-dessus de 80 % d'eau. Et le reste, c'est de la poussière. Deuxième partie de l'être humain, l'âme. L'homme est une substance pensante. Zacharie 12, verset 1. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël, ainsi par l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Les Écritures nous disent bien que c'est Dieu qui forme l'esprit de l'homme à l'intérieur de nous. On sait que l'âme habite dans le corps et qu'elle a une nature spirituelle. Ecclésiaste 12, verset 7. Avant que la poussière retourne à la terre comme il y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Elle est aussi immédiatement soufflée par Dieu. Elle est aussi immatérielle. Elle est aussi immortelle, contrairement au corps. Or, le corps peut mourir, l'âme ne meurt pas. Même à notre mort, l'âme ne meurt pas. Elle s'en va, soit dans le ciel ou soit dans l'enfer. Elle possède des facultés qui sont l'intelligence, la volonté et les affections. Maintenant, tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait des controverses sur de quelle manière l'homme est composé. Le théologien John Gill croit que l'homme est ce qu'on appelle en théologie bipartite, le corps et l'âme. Et l'esprit et l'âme, souvent, quand vous regardez beaucoup de passages, l'esprit et l'âme sont des synonymes. Alors lui, il part du principe que si vous regardez l'ensemble des passages qui parlent de la manière dont on est composé, il dit que la plupart des endroits où il y a âme, on peut remplacer par esprit, et souvent les termes sont interchangeables. D'où sa conviction que l'homme est de nature bipartite. Maintenant, moi je me souviens qu'au début de ma vie chrétienne, que j'avais eu des leçons, on disait que l'homme était tripartite. Alors, on dit corps, âme et esprit. Alors, il croit que 1 Thessaloniciens 5:23 et Hébreux 4:12 ne sont pas des preuves scripturaires de la composition tripartite de l'homme. La raison est que dans plusieurs passages des Écritures, les notions de l'âme et de l'esprit sont interchangeables, c'est-à-dire que ce sont des manières différentes de parler de la même chose. Moi, je serais porté à croire que Gill a raison. Je n'ai pas fait l'étude au complet. Lui, sûrement qu'avant de s'avancer à dire ça, il l'a fait. Mais ce n'est pas une grosse erreur, parce que si on regarde 1 Thessaloniciens 5:23, ça dit « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Puis dans Hébreux 4:12, ça dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Alors, lui, il se base sur le fait qu'il dit que ces deux versets-là ne sont pas des versets qu'on peut utiliser pour parler de la supposée composition tripartite de l'homme, parce qu'il dit que, j'ai nommé, interchangeable entre esprit et âme. Sûr que quelqu'un qui fait l'étude au complet, qui prend la peine de le faire, fort probablement qu'il doit arriver à la conclusion. Moi, personnellement, je crois que c'est bipartite. Mais c'est pas une grosse erreur que de croire qu'il est tripartite, parce que c'est tout simplement peut-être un manque d'observation du fait que, un peu comme dans les Écritures, par rapport au terme pasteur, évêque, ancien, et ces choses-là, presbyte, c'est quatre termes différents. Mais quand quelqu'un... Parce que les catholiques en ont fait une hiérarchie. Bon, on va mettre les évêques au-dessus des pasteurs et ils font... À partir de ces termes-là, ils disent, bon, ben, ça veut dire des choses différentes dans la fonction. Mais quand quelqu'un se donne la peine de faire l'étude de façon approfondie, on voit véritablement que ces termes-là sont interchangeables. Fait que s'ils sont interchangeables, ça veut dire que ça se réfère tout à la même chose. Alors ici, c'est le même argument. C'est pas à cause que c'est dit dans un endroit, corps, âme et esprit, que nécessairement c'est trois parties. En tout cas, c'est une constatation que si vous allez dans les livres de théologie, vous allez voir que certains théologiens vont dire bipartite, d'autres théologiens vont dire tripartite. Puis ceux qui sont tripartites vont avoir leurs arguments, puis ceux qui sont bipartites vont avoir leurs arguments aussi. C'est pas nouveau en théologie. Alors, l'âme ne se transmet pas par génération naturelle des parents, mais elle est créée directement par Dieu à partir de rien. Dans Hébreux 12:9, ça dit « D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits? » Ici, Dieu est présenté comme étant le Père des esprits. Donc, quand un être humain s'accouple avec une femme et qu'il a un enfant, il crée le corps, il ne crée pas l'âme. L'âme est créée par Dieu lui-même, selon Hébreux 12, verset 9. Et il y a un autre verset, il y en a probablement plus que ça. Comme je vous ai dit, quand je prépare les leçons avec le contenu du livre de théologie de John Gill, je ne prends pas tous les versets qu'il mentionne, parce qu'il en mentionne beaucoup plus que moi. Moi, j'ai juste retenu les versets qui semblent très représentatifs de ce que j'enseigne, mais c'est-à-dire que ce que lui enseigne. Ici, dans Ésaïe 57, verset 16, « Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. » C'est le Seigneur qui parle. Il dit « les âmes que j'ai faites ». Alors, je pense que c'est assez facile de se faire une opinion quant à la création de l'âme. Ce n'est pas l'homme et la femme par leur union, ils vont créer le corps, ils vont procréer. Et on n'appelle pas ça création, on appelle ça une procréation. Donc, Dieu se sert de l'instrument de l'homme et de la femme pour amener le corps, mais l'âme vient du Seigneur lui-même. Alors, l'âme de l'homme est créée dans le temps. Elle n'a pas une existence éternelle, c'est-à-dire qu'elle n'existait pas de toute éternité. Je me souviens d'avoir entendu à TBN, à Trinity Broadcasting aux États-Unis, Network, une personne, un pentecôtiste, qui prétendait qu'il avait été au ciel, prétendait qu'il avait eu la même expérience que Paul. Et là, il dit qu'il a vu le trône de Dieu, puis que là, autour du trône de Dieu, il y avait des âmes qui tournaient. Là. Et là, Dieu disait, « OK, elle, je l'envoie dans tel corps. » Alors, c'est comme une fausse théologie, parce que la théologie dit que Dieu crée l'âme en même temps que le corps. Les âmes ne sont pas préexistantes. Alors, voyez-vous, quand vous écoutez des affaires comme ça, les gens qui écoutent ces choses-là, là, comme étant à peu près, comme s'ils étaient des grands théologiens, là, ou bien donc qui croient un peu crédulement que le gars prétend qu'il a déjà été au ciel, puis qu'il voit, il prétend qu'il a vu Dieu, puis que comment Dieu procédait pour envoyer les âmes dans le corps. Mais c'est très naïf, c'est très naïf, c'est très, très peu scriptural. Alors, les âmes des hommes sont créées une par une, c'est-à-dire qu'elles ne le sont que lorsque leurs corps sont préparés pour les recevoir. Zacharie 12, verset 1, oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Alors, quand on étudie et on est attentif aux Écritures, il y a beaucoup d'erreurs qui s'éliminent par elles-mêmes. Troisième chose qu'on va regarder, c'est leur sexe. Alors, le Seigneur a dit qu'il les avait créés mâles et femelles. Les Écritures dans Genèse 1, 27 nous enseignent que Adam, donc le mâle, fut créé en premier. Ça nous dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. 1 Timothée 2, verset 13, « Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. » 1 Corinthiens 11, verset 9, « En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme, et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. » Donc, le deuxième point, c'est que la femelle fut créée, la deuxième. Elle a été tirée de son côté. Et John Gill voit tout un symbolisme là-dedans. Je trouve que c'est très intelligent. Il dit, une côte, c'est sous le bras. Alors, il dit, ça symbolise l'amour, la protection et le besoin. Et le soin que l'homme va porter à la femme. Et ça dit aussi os de ses os, ou os de ses os. Donc, pour la nourrir et pour la chérir. Quatrième point, on va regarder l'homme créé à l'image de Dieu. Quand on dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu, qu'est-ce qu'on veut dire exactement? Alors, on peut regarder ça sous deux angles. L'angle qui a une certaine similitude de l'homme avec le Créateur, avec Dieu, dans son corps, et aussi il peut y avoir une certaine similitude de l'homme avec Dieu dans son âme. Alors, on va regarder les différentes facettes, d'abord du corps et ensuite de l'âme. Alors, dans son corps, la question de la posture debout, la question qu'il y a des yeux, c'est comme lui, John Gill, voit une certaine similitude avec l'omniscience de Dieu. Donc, l'omniscience, ça veut dire le savoir. Bien, souvent, beaucoup du savoir qu'on a nous vient par les yeux. Donc, c'est sûr que quand on parle de similitude, il faut toujours tenir compte que la similitude est petite. Et ça peut être similaire, mais que Dieu est infini, puis nous, on est fini. Alors, mais quand même, c'est quand même une similitude. Parce que c'est Dieu lui-même qui dit qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc, on a des oreilles aussi, une certaine similitude avec l'omniprésence de Dieu. Ayant des bras, une certaine similitude avec l'omnipotence de Dieu. Qu'est-ce qui nous rend potent? Si quelqu'un n'a pas de bras, on dit souvent que c'est un impotent. Ayant une face, pouvant exprimer par sa face son plaisir ou son déplaisir, n'est-ce pas qu'on peut lire dans la figure de quelqu'un son plaisir ou son déplaisir? Avant sa chute, a été créé immortel. Donc, si Adam n'avait pas péché, il serait demeuré, il serait encore là. Parce que son corps avait été créé immortel, c'est le péché. En introduisant le péché, il introduisait en même temps la mort, parce qu'il avait été avisé par Dieu que s'il chutait, la mort s'ensuivrait. La mort dans ses trois aspects, physique, séparation de Dieu et aussi séparation éternelle. L'homme a été créé saint et juste, donc une certaine similitude avec Dieu. Parce que c'est sûr que la sainteté de l'homme avant la chute, il y a une certaine comparaison qu'on peut faire avec celle de Dieu, mais c'est sûr que c'est toujours dans les proportions. Quand on parle d'infini, puis de fini, mais c'est quand même une similitude. Et aussi créé avec une domination sur les créatures. Donc une similitude avec la souveraineté de Dieu. Donc quand on regarde ça du côté, dans notre corps, Dieu nous a fait qu'on a certaines similitudes avec lui. Maintenant, dans l'âme, la nature de notre âme est immatérielle, immortelle et invisible. Elle a des pouvoirs et des facultés, comme Dieu dit dans les Écritures, qu'il a l'intelligence, qu'il a la volonté, qu'il a aussi des affections. L'homme, dans son âme, a aussi des facultés, intelligence, volonté, affection. Maintenant, avant sa chute, l'homme avait des qualités, il avait une connaissance de Dieu qui était assez grande, il avait une sagesse, il avait une sainteté et une certaine justice. Colossiens 3, versets 9 et 10, « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Éphésiens 4, versets 20 à 24. « Mais vous, Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller, eut égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Ecclésiaste 7, verset 29. Seulement, voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Aussi dans le fait que l'homme a une volonté libre, du moins avant sa chute, parce qu'après sa chute, sa volonté est comme dominée par sa nature pécheresse. Donc, dans sa volonté libre, il y avait quand même un aspect de similitude avec Dieu. Et si on prend l'homme dans sa globalité, à la fois qu'il soit un homme, qu'il ait à la fois l'âme et le corps, alors l'immortalité, c'est une similitude avec Dieu dans notre globalité, parce qu'on n'est pas immortel dans le même sens que Dieu, parce que Dieu est immortel dans les deux sens. Nous, on est immortel à partir de la naissance. Quand l'âme joint le corps, l'âme demeure immortelle pour la partie du futur, mais elle n'est pas immortelle dans le passé. Donc, l'immortalité est un trait qui nous rend semblables à Dieu. Genèse 1, versets 26 et 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Si jamais vous allez dans des commentaires sur Genèse, vous allez voir qu'il y a beaucoup de différences dans la façon d'interpréter notre image et notre ressemblance à Dieu. Moi, je pense que Gil a fait pas mal le tour de la question et a présenté les différents aspects à la fois du corps et de l'âme, et l'homme dans sa globalité, qui fait en sorte qu'on a des similitudes et une ressemblance avec Dieu. Verset 27, « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Autre caractéristique, la domination. Dieu domine sur toute chose, l'homme domine sur ce que Dieu lui a permis de dominer. Donc, on sait que Dieu a donné à l'homme de dominer sur les animaux et sur la terre. Psaume 8, versets 6 à 8. Tu lui as donné, ici ça parle de Dieu, tu lui as donné à l'homme la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Aussi dans le fait qu'il soit béni de Dieu, du moins dans son état original, l'homme fut plus béni que toutes les autres créatures. Au moment de sa création, avant sa chute, sa constitution était en pleine santé, son corps était immortel, son âme était connaissante, sage, sainte et juste. Et l'endroit fourni par Dieu pour son habitation était à la fois délicieux et parfait. Et les créatures lui étaient assujetties, et il avait une communion avec Dieu par le fait que Dieu lui apparaissait et par le fait que Dieu dialoguait avec lui. Alors, il a tombé de haut, comme on dit. Quelles sont les applications qu'on peut faire à partir du texte d'aujourd'hui? Au moins deux. Admirons l'intelligence, la bonté, la puissance et la sagesse de Dieu dans la création de l'homme. Ici, on pourrait en parler longtemps. Ensuite, deuxième application, louons le Seigneur pour sa grâce infinie. Que l'Éternel soit loué, béni et adoré à tout jamais. Amen.
Amen.